Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Stéphane étant parti en vacances, c'est moi qui ai le plaisir de le remplacer pour cet avant-dernier épisode de la saison. Comme toujours, nous allons faire un petit récap de l'actualité Apple, qui a surtout été marquée par l'ouverture en France des précommandes du Vision Pro. Est-ce que c'est un carton? C'est ce que nous allons voir avec Christophe. Dans le reste de l'actu, Apple a lancé sa traditionnelle offre Back to School, l'iPhone 16 pourrait passer à la puce A18, et la ChatGPT pour Mac a des problèmes de confidentialité. Nous sommes le samedi 6 juillet, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas louper. Le lancement du Vision Pro dans l'Hexagone approche à grands pas. Les précommandes du casque ont ouvert à 14h pétantes vendredi dernier en France et en Allemagne. Salut Christophe, ça va ?
Bonjour Félix, ça va bien et toi ?
Très bien. Est-ce que tu as réservé ta session de démo à l'Apple Store d'Hambourg ?
Non mais maintenant que tu le dis, le Vision Pro a pas l'air de beaucoup plus passionner les foules en Allemagne qu'en France.
Ah oui ?
Non, là c'est plus, on est plus dans une ambiance... championnat d'Europe de football que dans une ambiance de lancement de Vision Pro, pour te dire.
Forcément. Les premières livraisons sont prévues vendredi prochain pour ce casque tout de même vendu 3 999 € dans l'Hexagone, et en Allemagne aussi. Il s'agit du modèle 256 Go, la facture peut grimper jusqu'à 4 449 € pour la déclinaison 1 Tera. Les précommandes n'ont pas réellement décollé le jour de la sortie, étant donné que les délais de livraison sont restés bloqués au 12 juillet pendant plusieurs jours. Quand il s'agit du lancement d'un Mac ou d'un iPhone, les délais ils s'envolent généralement assez vite, donc les clients français, c'est assez évident qu'ils n'ont pas vidé les stocks d'Apple. Christophe, est-ce que ça te surprend ?
Si j'étais mauvaise langue, je dirais que ça me rappelle le lancement de l'iPad mini, mais ça, il faudra attendre le 12 juillet pour en être certain, où il n'y avait absolument personne devant l'Apple Store pour le lancement de cette tablette. C'était la première tablette où il y avait vraiment, vraiment personne en boutique.
Il n'y avait que Stéphane.
Oui, je ne sais pas s'il avait déjà eu le coup de foudre, c'est arrivé un peu avant, un peu après. Enfin, ça, faudrait étudier la question. Alors, déjà, le lancement en juillet, c'est quand même pas la meilleure idée qui soit.
Ouais.
En plus, le 12 juillet avant le 14 juillet, même si le 14 c'est un dimanche cette année. Tu ajoutes à cela le contexte, on va dire, français qui est quand même pas très folichon. Mmh. C'est pas étonnant que voilà. Alors, si j'étais encore mauvaise langue, je dirais que de toute façon, maintenant, Apple a deux hobbies. Hein, celui pour le commun des mortels, c'est l'Apple TV, et celui pour les riches, c'est le Vision Pro.
Oui.
Maintenant, un peu plus sérieusement, moi, ce que je vais suivre de près dans les jours qui viennent, c'est l'accueil que le Vision Pro va recevoir en Asie. Parce que c'est une population où le Vision Pro a manifestement plus de chances de réussir. On nous a souvent dit que c'était un public qui était plus habitué à utiliser des casques VR. Donc là, à voir effectivement. Et puis de toute façon, la Chine, c'est quand même un gros marché pour Apple. Donc ce sera très intéressant à suivre. Après, comme tu le sais, il semble qu'Apple a pris conscience du problème et travaillerait davantage sur, je sais pas comment il faut l'appeler, sur un Vision Lite, enfin sur un modèle un peu moins cher. Hein, voilà.
Ouais.
Donc, je ne sais pas, alors, je me demande ce que donnerait un modèle qui coûterait, on va dire, 1 500 ou 2 000 €. Mais je pense, et ça, c'est toi qui vas me confirmer ou pas la chose, moi, je pense qu'un tel appareil ne peut pas avoir un vrai succès, en tout cas auprès du grand public, tant qu'il n'a pas un volet jeu digne de ce nom. Et là, je crois que... On n'y est pas du tout encore.
Non. D'ailleurs, ouais, les jeux et la fitness, c'est les deux trucs qui ont bien marché sur le MetaQuest. Donc vraiment, les jeux, de toute façon, c'est le truc qui est à la base de la VR et donc qui a un peu fait décoller la plateforme, mais vraiment un petit peu, parce que c'est pas non plus... Tous les joueurs n'ont pas forcément un casque de VR. Apple, ils y sont pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a quelques jeux sur la plateforme via Apple Arcade. T'as quelques trucs qui commencent à émerger à côté chez les développeurs, mais bon, c'est vraiment pas un casque pensé pour les joueurs. Après, ça pourrait changer, parce que j'ai fait un article ce matin là sur une startup qui veut lancer les premières manettes pour Vision Pro. Donc ça, lié à un PC gamer par exemple, on pourrait donc streamer les jeux depuis son ordi vers le casque, y jouer avec les manettes, donc ça pourrait être intéressant pour les gens qui sont intéressés par la VR. Après, ça demande quand même toujours beaucoup d'argent, parce qu'il faut déjà avoir un Vision Pro, un PC capable de faire tourner des jeux en VR, donc ouais, c'est pas pour tout le monde.
Ouais, et ce qui est inquiétant de manière générale, c'est que la sortie du Vision Pro ne semble pas avoir dopé et avoir donné un nouvel intérêt de la part du grand public pour les casques, quels qu'ils soient, qui sont moins chers. Je crois qu'on a eu des nouvelles de Sony qui étaient assez négatives à ce sujet-là récemment.
Ouais, non, bah le PSVR 2, il y a beaucoup de monde qui pense qu'il a fait un flop. Il y avait des rumeurs comme quoi ils avaient arrêté la production le temps de vider les stocks, donc ça, c'est rarement bon. Après, le Vision Pro, c'est vrai que c'est dans une toute autre gamme de prix, quoi. C'est-à-dire que le PSVR 2, je crois qu'il est dans les 600 euros, le MetaQuest, ça doit être à peu près pareil. Là, le Vision Pro, on parle quand même d'un casque à 4000 euros, donc c'est sûr que ça n'allait pas chambouler le marché, ouais.
Non, mais peut-être créer un sort de stimuli en disant « Ah tiens, c'est marrant ces casques. Ah non, je vais pas mettre 4000 euros dans un casque et je vais pas acheter un casque en plus qui est pas dispo chez moi. Ah, mais il y a ce truc par contre de Sony ou de Facebook qui est pas mal, enfin... »
Ouais, bah c'est-à-dire que c'est différent dans le sens où les jeux VR, de toute façon, ils seront plus ou moins pareils sur un Vision Pro que sur un MetaQuest, quoi. Mis à part les écrans qui sont mieux. Pour le casque d'Apple, après l'expérience, au final, le truc où il pourrait se démarquer, c'est sur les jeux en AR, parce que vu qu'il y a un très bon pass-through, que tu vois bien, enfin que les caméras sont top, ça pourrait faire des trucs sympas, mais on n'y est pas pour le moment.
À suivre alors.
Ouais. L'autre grosse actualité de la semaine chez Apple, c'était le lancement de l'offre Back to School, destinée aux étudiants et aux personnes travaillant dans l'enseignement. Si Apple offrait l'année dernière des cartes cadeaux oscillant entre 100 et 150 euros, les étudiants auront cette année le droit à des AirPods ou à des Apple Pencil pour l'achat de certains appareils. Christophe, Apple a toujours eu des offres sympas pour les étudiants, non ?
Oui, comme le faisait remarquer un lecteur, alors il y a une époque pas si lointaine, enfin c'était quand même bien, il y a une bonne dizaine d'années, quand tu achetais un Mac avec l'offre Back to School,
ouais.
Tu pouvais repartir avec un iPod pour quasiment rien. Donc, c'était une offre qui, à l'époque, était vraiment très intéressante.
Ouais.
Alors, il y a une différence aujourd'hui, c'est qu'il y a une guerre des prix autour des produits Apple qui est autrement plus importante qu'il y a une dizaine d'années. Et donc, effectivement, là, on parle de l'offre Back to School d'Apple, mais si ça se trouve, d'ici 2-3 semaines, enfin, je sais que la Fnac a tendance à en lancer une au courant d'été. Mmh. Les offres Back to School de la Fnac seront peut-être plus intéressantes que celles d'Apple.
Ah ouais.
Ouais, ça arrive. Alors avant, il y avait pour les étudiants, il y a quelque chose qui était très intéressant. Ça s'appelle Unides, hein, donc c'est un partenariat avec certaines universités et écoles qui donnent accès à une version spéciale de l'Apple Store Education. Quand je dis une version spéciale, c'est que souvent les étudiants ont le droit à des remises très avantageuses.
Ouais.
Mais là, j'ai rapidement comparé les prix avant de faire l'émission. Et voilà, par exemple, un MacBook Air M3, c'est exactement le même prix sur l'Apple Store Education que sur Unides.
Okay.
Donc voilà, mais de toute façon, c'est sûr que bon, je pense qu'il y aura des promos pendant l'été. Ouais. Savoir est-ce que ce sera celle d'Apple qui sera la plus intéressante. Ça n'a pas été souvent le cas ces derniers temps, mais voilà, à voir en tout cas.
C'est vrai que c'était sympa leur offre. Moi, pour mon premier Mac, j'avais eu une carte cadeau de 150 euros, donc qui était valable sur l'App Store. Donc j'avais acheté plein d'apps pour Mac, des traitements de texte. Enfin, c'était pour la fac, donc ça tombait bien. Des jeux aussi pour l'iPhone, enfin, tout un tas de trucs. Après, c'est vrai que leurs promos ne sont pas forcément folles, dans le sens où les promos Unidays, elles sont bien, mais c'est les mêmes prix quasiment que sur Amazon, où il y a toujours genre moins 5%, moins 10%. Donc là, il y a quand même des gadgets en plus, c'est cool, mais ouais, faut bien penser à chercher partout, quoi.
On a l'impression qu'ils tournent un petit peu autour du pot, qu'ils savent pas... on a l'impression qu'ils cherchent la bonne formule. Un coup, effectivement, c'est des cartes cadeaux. Au début, d'ailleurs, il y avait des fois, c'était des cartes qui marchaient uniquement sur l'App Store. Des fois, c'était des cartes qui marchaient sur aussi bien l'App Store que sur l'Apple Store. Un coup, ils font des rabais sur un second produit. Ils font effectivement un petit effort sur les prix, mais pour les étudiants, mais ils jouent pas non plus la carte à fond, sans doute pour pas se mettre à dos le circuit de distribution. Hein. On a l'impression, c'est un peu comme le Black Friday. On a l'impression qu'ils le font pour le faire. En plus, parmi les premiers à le faire. Et là, ils se retrouvent avec un truc qui a l'air de les embêter à moitié.
Ouais. Il devrait y avoir du changement sous le capot des iPhones de 2024. Apple Intelligence demande en effet pas mal de puissance et ne pourra pas tourner sur l'actuel iPhone 15, qui a quand même une puce A16 qu'on a vu apparaître sur les iPhone 14 Pro. On imagine mal Apple lancer donc son iPhone 16 qui prendrait pas en charge Apple Intelligence. Les rumeurs voudraient donc que toute la gamme iPhone 16 carbure à l'A18. Christophe, est-ce que ça te donne envie de changer d'iPhone, tout ça ?
En tout cas, moi, je trouve que c'est très bien parce que j'étais pas du tout fan de cette segmentation. Mmh. Je trouvais ça assez bizarre que les iPhone 15 soient à ce niveau-là moins bien traités que les iPhone 15 Pro.
Ouais.
Bon, de toute façon, comme tu disais, ils sont un peu obligés de faire l'effort sur les modèles standards par rapport à Apple Intelligence. Et c'est là le truc, justement, pour répondre à ta question. Moi, je suis assez mitigé. Actuellement, j'ai un iPhone 14 Pro qui me satisfait dans l'ensemble. Si Apple Intelligence aurait été disponible, on va dire, dès septembre, dans l'Union européenne, j'avoue que j'aurais été très tenté. Là, bon, on part d'une bêta qui n'arrivera que chez nous pas avant l'année prochaine. Il y a l'air d'avoir les complications. Enfin, on ne sait pas si c'est vraiment des complications ou si Apple en a profité pour faire le buzz avec l'Union européenne.
Ouais.
Enfin, tout ça pour dire que, on va dire que dans le meilleur des cas, on va pouvoir profiter d'Apple Intelligence au printemps de l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il faut acheter tout de suite un iPhone 15 ou un iPhone 15 Pro? Ou se dire, de toute façon, dans les générations qui viennent, ils vont, au niveau du système sur puce, ils vont mettre le paquet sur l'intelligence artificielle. Donc, autant peut-être attendre un iPhone 16 ou un iPhone 16 Pro, sachant qu'en plus, ils ont l'air de préparer des choses assez intéressantes sur la gamme. Donc, on sera en 2025. On est question notamment d'un modèle slim. Je serais pas étonné que ce modèle se dispose d'une nouvelle technologie par rapport à la batterie et se retrouve à être très très, très fin tout en proposant une autonomie tout à fait convenable.
Ouais.
Donc pour l'instant, je serais on n'est pas pressé, mais malgré tout, j'attends de voir la nouvelle gamme à la fin de l'été pour me faire un avis définitif là-dessus.
Après, c'est vrai qu'ils vont passer à la puce A18, mais c'est pas dit que les iPhone 16 et iPhone 16 Pro aient tous les deux la même puce A18. Ils pourraient très bien faire une puce A18 Pro pour les téléphones Pro, une puce A18 un peu moins puissante.
Oui, ou avec un ou deux corps de moins, oui, ça c'est possible.
Voilà, ouais, par exemple.
Après, c'est vrai qu'il y a aussi ça, enfin, il faudra voir ce que donne. J'ai l'impression que cette puce va. Enfin, ça va être la question de la RAM qui va beaucoup distinguer, on va dire, les dernières puces. Parce qu'en termes de performance, c'est mieux chaque année, mais on a plus des gains aussi importants qu'on avait pu avoir il y a quelques années.
OpenAI a récemment lancé une app ChatGPT pour macOS, mais il y avait visiblement eu quelques moments d'égarement au moment de gérer la sécurité. Toutes les conversations sont stockées en clair sur le Mac de l'utilisateur. Pire encore, le dossier de l'app n'était pas sécurisé et l'app pas sandboxé, ce qui permettait facilement à un malware de récupérer les conversations. OpenAI a réagi assez vite et déployé une mise à jour quelques jours plus tard, mais l'affaire avait déjà fait pas mal de bruit. Christophe, ce genre d'histoire, ça la fout mal, non? On rappelle qu'Apple vient de signer un partenariat avec OpenAI, donc pour mettre ChatGPT sur iOS 18.
Bah, on critique les intelligences artificielles génératives, mais il faut reconnaître que c'est une vraie réussite. Elles se comportent exactement comme des êtres humains. Elles ont tendance parfois à délirer, elles sont des fois pas très raisonnables, et elles laissent des traces.
Ouais.
Tout comme nous. Voilà, alors oui, effectivement, les différentes failles ou facilités comme l'absence de sandboxing utilisé par les développeurs d'OpenAI, bah, j'ai envie de dire que c'est limite un coup de publicité pour le Mac App Store, parce que bon, il y aurait certaines choses qui seraient pas passées, quoi, que le coût de la base de données qui est pas chiffrée, je pense que voilà. Mais bon, le sandboxing et tout ça, Apple ne rigole pas avec ça.
Oui, ouais.
Bon, après, effectivement, en plus, niveau timing, c'est relativement moyen. On découvre tout cela quelques semaines après l'annonce de l'accord avec Apple. Si on voulait, comment dire, si Apple cherchait à dire, bah, vous inquiétez pas, OpenAI, niveau sécurité, au niveau respect des données, c'est super. Un petit peu moyen ce qui arrive là.
Oui, ouais, carrément.
Voilà, et puis l'autre nouvelle qui est quand même assez intéressante, enfin, c'est pas encore officialisé, mais a priori, les relations entre Apple et OpenAI semblent au beau fixe, puisque Phil Schiller devrait sans doute d'ici la fin de l'année obtenir un poste d'observateur au conseil d'administration.
Ouais.
Donc tout ça, c'est un petit peu dans la quête de légitimité d'OpenAI, c'est quand même pas mal. Donc il aurait un rôle d'observateur, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas voter, mais il serait informé des décisions stratégiques de l'entreprise. Ouais. Microsoft possède également un rôle d'observateur, alors j'imagine que de temps en temps, il devra sortir de la pièce quand Microsoft et OpenAI parleront de certaines choses confidentielles.
Ouais.
Enfin, voilà, c'est pas simple comme structure OpenAI, mais tout cela montre que Apple et OpenAI, c'est pas qu'une alliance de circonstances a priori, c'est quand même quelque chose de penser sur le long terme.
Ouais. Eh bien, merci Christophe pour ce petit récap de l'actu de la semaine. À bientôt.
Bon week-end à tous.
Salut. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Sortie de Veille. Ciao, ciao. Bye bye.